voilà, moi, je commence avec un point de vue économique. Donc, je suis économiste et je vois le migrant connecté sur le schéma économique. Donc, je commence, je travaille sur la migration et le développement des pays d'origine. Comment le migrant connecté peut contribuer au développement de son pays d'origine, étant donné qu'il est dans un autre pays, dans son pays d'accueil. La question migration, développement, tire l'attention du pays d'accueil, pays d'origine, le migrant lui-même. Et le migrant soutient le développement de son pays d'origine par les apports financiers, son capital humain, les flux commerciaux, réseaux sociaux et le savoir-faire. Et donc, et à ce propos, permettez-moi donc de vous reprendre la citation du rapport du secrétaire général en 2006. Donc, nous commençons seulement à apprendre à faire du phénomène d'immigration un instrument plus cohérent au service de développement. Chacun d'entre nous détient une pièce du puzzle et à ce jour, personne ne dispose du tableau d'ensemble. Il est temps d'achever cette construction. Donc, la question de migration est une question intéressante dans nos jours et surtout du rôle du migrant pour contribuer au développement de son pays d'origine. Et cette question s'avère très intéressante à travers les initiatives qui se déroulent au niveau international, les processus engagés par la Commission mondiale sur les migrations internationales, le dialogue de haut niveau des Nations unies, le processus d'organisation internationale du travail, organisation internationale de la migration, et ce qui donne de plus en plus importance de voir la question de la migration. Donc, je vais surtout m'intéresser à la question de la migration du côté pays d'origine. Donc, sur deux canaux, les transferts de fonds et les transferts de savoir et de technologie. Donc, le migrant peut contribuer au développement de son pays d'origine à travers les transferts d'aspects financiers et les transferts d'aspects non financiers. Donc, il peut contribuer. Et la tâche la plus difficile, c'est que ces deux canaux sont. On ne peut pas les séparer définitivement, il y a interaction. Et donc, l'objectif de mon travail, c'est de voir un essai typologique ou une typologie pour faire une présentation de ces deux transferts. Je commence par les transferts financiers. Je vous montre l'importance de ces transferts. Donc, au cours des dernières décennies, les transferts monétaires sont accrus. Il y a un accroissement. Donc, entre 1995 et 2005, il y a presque le montant est multiplié par 3. Et surtout que ces flux sont marqués par rapport aux autres flux de financement extérieur, que ce sont des flux plus stables par rapport, par exemple, aux investissements directs étrangers ou aux aides au développement. Et ça sert à contribuer à la croissance économique des pays d'origine et surtout après le développement. Donc là, je vous montre quelques pays, là, les transferts de fonds en pourcentage de PIB, donc, et donc là, les transferts présentent un point important dans le produit intérieur brut des pays recevant de ces flux, qui peut arriver jusqu'à 45%. Et ça montre bien l'importance de ces transferts dans les pays d'origine. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'affectation de ces transferts. Ces transferts sont toujours destinés à des investissements non productifs, ce qui affecte la productivité, affecte plein de choses dans les pays d'origine. Donc, les organismes, maintenant, essaient de faire de ces transferts un point positif, un effet positif sur la croissance, le développement, de les canaliser, de les mettre sur des investissements productifs. Et là, j'essaie de faire trois groupes où les transferts peuvent être affectés, soit dans des besoins alimentaires, soit dans des investissements ou pour l'épargne. Et à ce point, je mets comment on peut introduire les technologies pour, si on a bien montré qu'il y a un accroissement des flux, c'est surtout dû à la déclaration de ces flux, dû à au développement du système bancaire, l'introduction des technologies dans le système bancaire. Et donc là, on le voit dans les investissements financiers et surtout dans les investissements des petites et moyennes entreprises ou dans l'éducation. Le migrant connecté, il contribue au financement des études de certains membres de la famille restant dans le pays d'origine. Et donc le migrant connecté, malgré qu'il est dans un autre pays, il participe au financement, aux dépenses de sa famille de loin et contribue au développement microéconomique, c'est-à-dire développement de la famille et d'après donc le développement de son pays. Là, je vais vous résumer une citation donc citée dans Network of Diaspora de Jean Gettman en 1976. En fait, si on trouve des flux téléphoniques qui sont intensifs entre deux régions lointaines dans le monde, on ne peut pas dire que c'est seulement car il y a des nouvelles technologies pour les satellites ou pour les téléphonies, c'est surtout l'existence d'une diaspora au bout du monde qui essaye de garder des liens avec son pays d'origine, qui essaie de voir ce qui existe dans le pays d'origine. Et ces liens se sont développés, se sont transformés non seulement des liens de famille, c'est aussi des liens économiques, politiques, sociaux. Et je termine avec cette citation. Si les migrants sont mères du progrès et de l'innovation, la volonté et le courage nécessaires pour laisser derrière soi sa famille et son propre pays sont les mêmes qui ont toujours animé entrepreneurs et innovateurs au cœur de l'histoire pour créer son entreprise ou pour commencer un projet dans sa vie. Donc là, aujourd'hui, on voit bien que le migrant, avec sa double culture, sa double façon de vivre, il est bien placé pour façonner l'industrie de notre monde actuel. Bon, après, en fait, j'ai voulu parler de mon plan de thèse où, voilà, c'est juste pour voir. Moi, je travaille sur la migration, la relation migration-développement. Et dans ma thèse, j'essaie de valider empiriquement cette relation au niveau macroéconomique et microéconomique. Macroéconomique à travers un modèle d'économétrie de croissance et microéconomique, c'est à travers un questionnaire que j'essaie de les poser pour un certain nombre des qualifiés et j'utilise. Donc je reste toujours sur le cadre d'un pays, c'est la Tunisie. Voilà, c'est surtout après pour voir une conclusion élargie et revoir les politiques migratoires. Est-ce qu'on doit appliquer la même politique migratoire pour tous les pays? Est-ce que... voilà. Donc je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps.
Je voudrais juste avoir des précisions. Est-ce qu'il y a eu un terrain empirique sur lequel vous avez expérimenté tout ça? Est-ce que vous avez un pays particulier et c'est lequel?
En fait, moi, je travaille sur la Tunisie et je travaille sur la diaspora des personnes qualifiées. Donc, mon questionnaire sera... Donc, je pose un questionnaire à des personnes qui ont quitté la Tunisie après un bac au minimum et qui ont poursuivi leur étude en France. Et après, s'ils sont encore en cours d'études ou qu'ils ont fini leur étude, ils sont encore ici travailler en France pour voir comment cette population élite peut peut contribuer au développement de la Tunisie, surtout que la Tunisie a beaucoup investi à l'éducation, à l'accumulation du capital humain. Et il y a une grande partie des élites qui quittent le pays pour soit pour étudier, soit pour travailler. Comment, étant donné dans un pays d'accueil, en France, peuvent contribuer à la croissance, au développement de leur pays d'origine?
Vous avez bien dit, si j'ai bien compris, que le montant des transferts des migrants de leur pays d'accueil vers leur pays d'origine a été multiplié par 3 de 1995 à 2005, et que cette augmentation, en fait, est essentiellement ou en partie due au fait que les transferts d'argent sont aujourd'hui déclarés. C'est ça? J'ai bien compris?
Le nombre de migrants a augmenté et en plus, il y a le migrant qualifié, il envoie de l'argent d'une manière officielle, déclarée. Ce n'est pas comme le migrant non déclaré qui n'a pas de papier. Voilà. En parallèle, il ne faut pas négliger l'aspect de migrant qui est maintenant qualifié, qui peut... voilà, c'est ce que je vais vous dire.
C'est de plus en plus présent, n'est-ce pas, dans l'espace migratoire, oui. Les migrants sont absolument éduqués. Et aussi dire que seulement 12% de la défense envoyée dans les pays d'origine sont visibles, d'accord? Le ouais. reste sont invisibles.
Voilà, on ne prend pas en considération des transferts non officiels, non déclarés. Alors on ne peut pas les trouver.
On
travaille beaucoup sur le coût, les frais. Parce que s'il y en a beaucoup qui refusent de transférer l'argent officiellement, c'est à cause des frais. Ils ne payent pas 25% ou 20% du montant pour le transférer. Donc ils préfèrent l'envoyer informellement pour profiter plus de la somme d'argent envoyée.
C'est pas seulement ça, si vous voulez des précisions. Parce que les banques, et comme les opérateurs, ils ont saisi cette opportunité. Mmh. Si vous envoyez de l'argent en urgence, vous payez plus, parce que vous prenez Western Union, ou si vous n'avez pas de papier. Mmh. Et le problème, c'est que les gens, bien qu'ils ont du téléphone mobile, aussi dans les pays et en Afrique, comme on l'a vu, ils ne sont pas bancarisés. Et c'est un problème d'envoyer de compte à compte pour que ça coûte moins. Mais on peut envoyer du téléphone à téléphone, et ça coûte moins. Et c'est en cours de se faire. Je pense que maintenant que vous allez faire votre thèse, vous pouvez assister à ce processus. D'ailleurs, je vous incite à l'observer.